éduqué comme ça à la CGT, je connais deux classes, le capital et le travail. Et dans le travail, au sens large, qui va des retraités aux jeunes qui sont des futurs travailleurs et travailleuses, eh bien, on essaye d'opposer ces personnes entre elles. Les chômeurs sont des fainéants, les retraités sont des privilégiés, et puis, bon, en venir à ce qui nous occupe, les travailleurs et les travailleuses sont des pollueurs. Et il me semble que notre souci doit être de rassembler tous ceux qui souffrent d'une façon ou d'une autre du capital et de faire converger. Il y a beaucoup de. Et le constat que moi j'ai fait avec mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup de mobilisations, mais des mobilisations parallèles sur des objectifs très importants. Et donc l'idée, c'est comment de ces parallèles, on trouve des convergences et des buts qui se rassemblent. Et la question climatique est essentielle. Mais si vous demandez à un travailleur de perdre son boulot pour sauver la planète, il a quelques questions existentielles. Donc il faut, pour éviter, écoute, travailler ses oppositions, et c'est ce que fait le gouvernement. Beaucoup de fermetures d'usines aujourd'hui sont justifiées pour sauver la planète. Et donc, comment on fait en sorte que ces deux combats, ils se prennent de manière positive? Alors, et donc, pour ça, il faut se parler. Moi, j'ai croisé Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace, à un contre-sommet du G20 à Irun, il y a quelques années, dans un débat. J'avoue que j'étais un peu angoissé de dire comment on va pouvoir discuter CGT et Greenpeace, alors que tout, enfin, tout nous oppose. En tout cas, tout le monde essaie de nous opposer. Et dans la salle, on a eu un déclic tous les deux. Il y a un monsieur qui a pris la parole, qui a dit « Je ne me chauffe pas, je mange froid, j'achète jamais de vêtements, je suis un écologiste involontaire, je suis chômeur. » Et le monsieur a dit « Je rêve d'être un vrai écolo. » Et à partir de ce témoignage, on s'est dit « Mais voilà, si on oppose à chaque fois le social et l'environnemental, on n'y arrivera jamais. Donc, comment on fait en sorte à partir de discussions, de, à chaque fois qu'on travaille quelque chose, de conjuguer les questions sociales et les questions environnementales. Et je pense que c'est quand on se parle, sans a priori, eh bien, on a des chances d'arriver à faire des choses intéressantes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce qu'on a construit, qui s'appelait plus jamais ça, comme tu l'as rappelé, aujourd'hui, la nuance écologique et sociale, avec des organisations d'horizons différents, des syndicats, des ONG, des associations, mais aussi pas que le monde du travail, CGT, classe ouvrière, mais la Confédération paysanne, par exemple. Et en essayant de travailler sur des choses concrètes, comme tu l'as rappelé, Fana, il y a besoin de slogans politiques, si c'était un débat hier soir, au programme, etc. Mais si des grands projets n'ont aucune signification concrètement pour les citoyens sur le terrain, ça reste des slogans. Et comme, vu mon grand âge, on a quelques expériences douloureuses de gens qui nous promettaient de changer notre vie et qui l'ont aggravée, je pense qu'il faut raisonner autrement. Il y a besoin du slogan, de faire rêver, mais la théorie sans travaux pratiques, c'est compliqué. Et donc, pour ne pas être trop long, on a par exemple, et j'en viens à ce qui était évoqué au début, j'ai proposé aux ONG et aux associations de visiter une usine. Il se trouve qu'il y a une usine en Normandie, la Chapelle d'Arblay, qui est une fabrique de papier. Il n'y a pas plus vieux que l'industrie papetière. C'est une des industries les plus vieilles. Et c'est d'une usine qui recycle du papier usagé. Elle recyclait l'équivalent d'une population de 25 millions d'habitants. Oui, c'est-à-dire que pratiquement un quart de la population française, le papier d'un quart de la population française était recyclé dans cette usine. Cette usine appartenait à un groupe, une multinationale finlandaise. Il t'a dit, malgré que vous ayez gagné 18 millions d'euros, c'est un bénéfice de 18 millions d'euros l'écran en 2016, c'est pas assez pour moi, je ferme. Je préfère aller couper des arbres à forêt amazonienne. C'est plus rentable. Et donc, à partir de là, on s'est dit, bah voilà, voilà un bel exemple où on conjugue les questions sociales, c'est-à-dire la défense de l'emploi, et les questions environnementales, puisque il y a une centrale biomasse, c'est une usine qui est entre la Seine et une gare de SNCF de fret. Et donc, j'ai dit à mes amis de Greenby, d'Oxfam, de la Confédération Paysanne, je vous emmène dans une usine, vous allez discuter avec les prolos et des cadres. Et puis, vous verrez qu'ils sont soucieux de la question environnementale, mais on leur ferme leur usine. Et donc, comment on trouve ensemble des solutions? Bien, on a mené un combat. Et donc, je vous invite, pour ne pas être trop long, à aller voir un film qui vient de sortir qui s'appelle « L'usine, le bon, la brute est tuant ». Et je ne suis ni le bon, ni la brute, ni cruant, ni l'usine. Il y a des actes. C'est les acteurs qui... Et la bataille, ça consiste à dire si on investit ce qu'il faut, si on s'appuie sur le savoir-faire des travailleurs et des travailleuses qui sont aussi des citoyens et qui sont aussi inquiets sur l'avenir de la planète, parce que la planète morte, le travail, c'est fini, eh bien, on peut trouver des solutions. Et donc, je pense qu'il y a besoin, si on, premièrement, de se parler, de n'avoir aucun a priori les uns vis-à-vis des autres, à partir du moment où notre cause est commune autour des questions sociales et environnementales, et puis de travailler concrètement sur des projets. Et il y a des tas de choses qui se font maintenant. Des tas de choses. Il y a l'usine de la Chapelle-Carpeg, il y a dans nombreux départements, il y a eu ce qui a été fait, même si c'est difficile, autour de la relance du train des primeurs, qu'on appelle le train des primeurs entre Perpignan et Rungis, où on a beaucoup travaillé aussi avec des petits paysans, parce que il faut le dire, il s'est concret dans le nom de paysan, ça m'a entre le patron de la FNSEA qui est patron d'une multinationale et le petit paysan du coin, il y a aussi des différences de classe, et donc on a travaillé avec des petits agriculteurs sur le besoin de développer des wagons qui permettent non pas les livraisons de grosses productions, mais qui sont adaptés aux petits producteurs. Voilà, je ne vais pas vous citer tous les exemples, sinon je vais faire plus de 12 minutes. Mais j'ai aussi, moi, fait mon expérience. La Confédération Paysanne m'a emmené visiter une ferme. J'ai les gens de la CGT qui vont voir les paysans, pour comprendre, une ferme où ils produisent du lait bio. Et j'étais surpris agréablement. Ces deux jeunes, vous avez 30 ans, ils sont frangins, 28 ans, 30 ans, qui m'ont accueilli en me disant, ce Martinez, on est très content de vous voir, parce que nous, on est pour nous 32 heures, et pour un salaire minimum à 2000 euros. Je me suis dit, vraiment, on aurait dû se voir avant. Non, mais je vous dis ça parce que, vous voyez, Si on discute, si on échange, tout ce qu'on essaie de nous mettre dans la tête pour nous opposer tombe, sont cassés. On a la vraie vie et on n'est pas dans tout discours ou dans des théories qu'elles essaient de nous inculquer nos dirigeants pour dire vous avez rien à faire ensemble, surtout ne vous parlez pas parce que vos vies sont différentes. Et donc moi j'insiste là-dessus. Alors C'est difficile, y compris dans ma propre organisation, parce qu'on a encore des clichés, des schémas, et à la CGT, on n'est pas meilleur que les autres sur cette ouverture d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais je pense que c'est un combat.